Bonjour, bienvenue à l'écoute de l'émission Musique de film sur Aligre FM, conçue par Benoît Basirico en partenariat avec Cinésique.fr. Pour notre émission de rentrée, notre invité unique est Thierry Jousse. Thierry, bonjour.
Bonjour Benoît.
Vous connaissez peut-être sa voix de radio, puisqu'évidemment Thierry Jousse officie à France Musique sur le sujet qui nous intéresse, la musique de film, dans l'émission Cinétempo. Rédacteur en chef auparavant des Cahiers du cinéma dans les années 90, aujourd'hui critique de cinéma aux Inrocuptibles. Vous avez écrit sur la musique dans les années 90, déjà dans les Inrocks, mais aussi dans Jazz Magazine. On reparlera de votre passion d'ailleurs particulière pour le jazz. Vous êtes aussi réalisateur de deux longs métrages, Les Invisibles en 2005, Je suis à No Man's Land avec Philippe Catherine en 2011. Comme je l'ai dit, donc producteur de l'émission sur France Musique Cinétempo, consacrée à la musique de film, sans oublier les Easy Tempo avec Laurent Valero et les Retours de plage l'été, toujours sur France Musique. Et donc, je vous invite pour cet ouvrage dont vous êtes l'auteur, Dictionnaire enchanté de la musique au cinéma chez Marais Éditeur. On y reviendra en détail. Tout d'abord, Thierry Jousse, vous êtes donc à la fois cinéphile et mélomane, ce que témoigne cet intérêt pour la musique de film et cet ouvrage. Mais vous avez une partie de votre travail qui était exclusivement liée à la critique de film. Les deux sont arrivés en même temps parce que dans votre livre, vous écrivez « Mon goût pour la musique de film remonte à l'enfance ».
Oui, oui, ça fait très longtemps. Après, il s'est pas forcément exprimé de manière entre guillemets professionnelle tout de suite, mais c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu une période d'éclipse entre les découvertes que j'ai pu faire de manière un peu inconsciente quand j'avais, je sais pas, 9-10 ans, et un peu après, liée aux films qui sortaient à cette époque, puisque moi je suis de la d'une génération qui a pu voir des films à la fin des années 60 et au début des années 70, donc c'était une période très riche en matière de musique de film, plus les séries qui étaient aussi porteuses de thèmes de Lalo Schifrin ou de Quincy Jones, donc tout ça, ça m'a nourri, mais j'ai pas, ou Vladimir Cosma par exemple, mais j'ai pas, je pense que tout ça a ressurgi beaucoup plus tard dans les années 90, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser de façon plus précise à la musique de film, et un petit peu d'ailleurs sous l'influence, ou en tout cas par la rencontre que j'avais faite avec Nicolas Saada, autre amateur de musique de film qui était lui aussi au cahier du cinéma à cette époque, donc je pense qu'on s'est un peu, il y a eu une sorte d'émulation réciproque entre nous qui nous amenait de façon de plus en plus directe à s'intéresser au sujet.
Parce que souvent écrire sur le cinéma a souvent exclu la musique, hein, en témoignent les revues, même les émissions de radio dédiées à la musique de film, où quand on parle de la musique c'est souvent pour en dire du mal, le masque et la plume pour ne pas le citer. Est-ce que justement vous déploriez ça régulièrement, vous en parliez, est-ce que vous dites voilà, là il faudrait faire un focus sur la musique, alors les Cahiers du cinéma sous votre direction a fait un numéro spécial?
En effet, c'est d'ailleurs le seul et unique numéro spécial de l'histoire. La précédente équipe des Cahiers avait fait un ensemble plutôt auquel j'ai participé d'ailleurs sur le sujet. Mais enfin, c'est le seul moment où on a essayé de réunir des contributions variées autour du sujet. Oui, dans les années 80-90, même s'il y avait déjà des amateurs de musique de film très très fervents, hein, ça existait déjà. Le fait est que, disons, la critique ou le grand public, même on pourrait dire en général, n'avait pas probablement l'intérêt qu'il peut y avoir, par exemple, aux États-Unis où cette culture de la musique de film est beaucoup plus, me semble-t-il, développé, et j'en m'en suis aperçu, oui, au fil du temps. Après, moi-même, quand j'écris ou quand j'écrivais sur des films, je parlais pas forcément non plus de la musique, ça, c'est pas toujours pertinent, parce qu'il y a des moments où la question se pose de manière beaucoup moins nette, mais j'ai eu le sentiment en effet qu'il fallait que le sujet devienne un peu plus central, pour moi en tout cas, pour un certain nombre de cinéphiles, et de fait depuis, ça a beaucoup évolué, parce que la culture de la musique de film a considérablement augmenté. Il y a un public maintenant qui est quand même relativement fervent pour à la fois les ciné-concerts, les concerts de musique de film. Donc on sent que cette culture est devenue beaucoup plus importante, et d'ailleurs elle a dépassé le cadre de la cinéphilie. C'est aussi un élément sur lequel je peux m'appuyer d'une certaine manière pour écrire sur ce sujet.
Et si écrire pour le cinéma a souvent exclu la musique, écrire sur la musique dans votre livre n'exclut pas le cinéma. Il y a différents amoureux de la musique de film, ceux qui collectionnent des disques et qui n'ont pas vu un film, j'en connais, et ceux qui découvrent exclusivement la musique dans les films. Alors vous êtes un peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous parlez de la musique, vous reliez toujours au film, mais souvent vous parlez d'album, c'est-à-dire qu'une BO devient un album autonome.
Oui, c'est vrai, parce que il y a des BO, il y a beaucoup de BO, même, je dirais, parmi les, notamment par exemple les films, les BO italiennes des années 60-70 qui sont très prisées à juste titre, qui finalement existent davantage quand elles sont sous forme d'album que dans les films où elles sont souvent, la musique est souvent sous-mixée, pas utilisée de manière très directe. Il y a des exceptions, hein, Dario Argento par exemple, lui utilise quand même la musique de manière beaucoup plus frontale et comme un élément vraiment fondateur et structurel de sa mise en scène. Mais enfin, c'est pas souvent le cas. Il y a des cas de figure où il m'est arrivé d'écouter des musiques bien avant d'avoir vu les films. Tout d'un coup, on voyait les films et on voyait que ces films ne mettaient pas en valeur du tout. Et en particulier par le mixage, qui est quand même une chose dont on parle rarement et qui est pourtant très importante dans un film, en tout cas pour la bande-son d'un film. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où la musique de film se détache très nettement du cinéma. Et puis, il y a d'autres cas où... c'est pour ça que j'ai essayé de varier les plaisirs dans ce dictionnaire, c'est-à-dire à la fois d'avoir une approche par compositeur, parfois par réalisateur, parfois par film, parfois par personnalités qui sont un peu transversales, on va dire, des musiciens comme David Bowie, par exemple. Donc, parce qu'il y a différentes manières d'approcher la musique au cinéma, et de fait, par rapport à, par exemple, à l'émission que je fais chaque samedi sur France Musique, c'est vrai que ça devient plus, pour moi, au final, au fil du temps, une émission de musique, liée, bien évidemment, au cinéma, qu'une émission, disons, de cinéma, ouais, à proprement parler. Donc oui, on oscille sans cesse entre les deux pôles, et c'est très bien comme ça, d'ailleurs.
On va rentrer dans le détail de cet ouvrage. Avant, cette activité de réalisateur de film, alors, c'est vrai que c'est très anglo-saxon d'être réalisateur de film amoureux de la musique. En France, il y en avait quelques-uns. Bertrand Tavernier, évidemment, en faisait partie. Et alors, en quoi réaliser des films a pu influer votre amour de la musique de film, dans la mesure où vous avez donc vous êtes confronté à cette question?
Je m'y suis d'autant plus confronté que les deux longs métrages que j'ai réalisés ont quand même un lien direct avec la musique, puisque dans les deux cas, le personnage principal est un musicien. Dans Les Invisibles, c'était un musicien, enfin, la musique électronique, et dans Je suis à No Man's Land, c'est Philippe Catherine qui chante pas énormément dans le film. Enfin, il y a quand même des moments où il chante, et puis il y a de la musique originale qui avait été signée par Pierre Davenkeller. Je m'y suis confronté, comme finalement n'importe qui, hein, c'est-à-dire pas forcément comme un amateur de musique, parce qu'en réalité, quand on aborde la question de la musique au cinéma concrètement, c'est-à-dire en devant l'utiliser sur des images, on est parfois un peu déstabilisé, même si on aime la musique, même si on se croit un peu spécialiste, malgré tout, et c'est vrai que j'ai vécu ce moment de déstabilisation où tout d'un coup l'image est vraiment modifiée, l'impact de l'image est modifié par l'apport de la musique et du son, et c'est quelque chose qui peut créer des problèmes. Donc il y a pas mal de réalisateurs qui sont un peu, notamment en France, qui sont un peu prudents, voire qui ont un peu peur de la musique. Bon, j'en faisais pas vraiment partie, mais je dois avouer que j'ai dû apprivoiser un peu cette question de manière concrète pour pouvoir arriver finalement au résultat que je voulais, quoi.
Je suis un No Man's Land que vous avez réalisé, musique de Davenkeller. Vous avez peut-être reconnu ces notes jazzy signées Michel Legrand pour l'affaire Thomas Crown, le film de Norman Jewison, daté de 1968. Alors c'est la première entrée de votre dictionnaire Thierry Jousse, à la lettre A, donc ce dictionnaire enchanté de la musique au cinéma chez Marais Éditeur. C'est donc le premier volume des lettres A à F, et donc lettre A s'ouvre avec l'affaire Thomas Crown. Vous dites à propos de cette BO, une incroyable réussite, un jazz baroque, c'est champagne à tous les étages. Dans ce livre, vous avez le sens de la formule.
Bah, j'ai essayé d'écrire d'une manière à la fois personnelle et de manière à ce que le lecteur ou les lectrices ne s'ennuient pas. Donc avec un style un peu enlevé, en tout cas, c'est l'idée que j'avais. C'est-à-dire que je voulais pas faire de la critique au sens traditionnel. C'est dictionnaire enchanté, évidemment, ça tient lieu un peu de dictionnaire amoureux, mais l'appellation était déjà prise, donc on pouvait pas l'utiliser. Donc ça tient aussi à, voilà, ça marque à la fois un enthousiasme et puis une approche, oui, au fond amoureuse. Donc là, il faut que l'écriture suive un peu, donc... ça explique sans doute cette idée des formules. J'essaye que l'écriture soit aussi un peu musicale.
Et ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est qu'évidemment il y a eu beaucoup de livres sur la musique de film. Il y en a eu des musicologues, il y en a eu des musicologiques, il y en a eu des universitaires, il y en a eu des critiques de musique. Il y a eu donc là c'est la forme littéraire, je trouve, et c'est comment la littérature finalement s'empare de la musique de film. Vous écrivez à la première personne, l'emploi du jeu est assez rare sur ce sujet. Et puis évidemment, vous vous prévenez tout de suite, n'ayant aucun souci d'exhaustivité, vous écrivez « Je préfère m'en référer à mes propres souvenirs ».
C'est un peu comme, oui, c'est-à-dire que j'ai essayé d'écrire comme un amateur au double sens du terme, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui n'a pas de vocation à être professionnel au sens strict du terme de la musique. Je suis pas musicien, ni musicologue, ni universitaire, en effet. Et amateur, c'est aussi aimer, quoi. Il y a le verbe aimer dans amateur, donc ça fait partie aussi de cette perspective que j'ai par rapport à la musique. Pour toute façon, c'est un plaisir pour moi avant tout la musique de film, hein, comme je pense pour beaucoup d'amateurs du genre. Donc il faut aussi réussir à transcrire ce plaisir, et en effet, si le livre est un peu littéraire, ce qui était un peu le but, j'en suis ravi, parce que c'est ce que je voulais, voilà, que l'écriture soit un objet en soi. Bon, faut pas non plus exagérer, parce que ça, il s'agit pas d'un livre de littérature, mais en tout cas, oui, c'est une optique que j'avais pas tellement creusée jusque là finalement. La dernière fois que j'avais publié un livre sur le cinéma, c'était il y a 15 ans, donc ça date, si on peut dire, comme on dit aujourd'hui, et c'était pas la même approche. C'était des livres plus de critiques, qui avaient une dimension un petit peu plus analytique, alors que là, en effet, on est dans un autre... Enfin, j'ai essayé de créer un autre espace d'écriture pour ce sujet.
Et c'est intéressant parce que, étant cinéaste vous-même, il y a vraiment un équilibre parfait. 22 compositeurs, si on inclut Carpenter, et 22 cinéastes, si on inclut aussi Carpenter. Voilà, des deux côtés.
C'est le hasard, hein. Voilà. j'ai pas fait exprès.
22 compositeurs, 22 cinéastes. Est-ce à dire pour vous que pour la musique de film, le réalisateur est autant responsable d'une bonne BO qu'un compositeur?
Bah oui, dans un certain nombre de cas, en tout cas dans ceux que j'ai choisis. C'est-à-dire qu'un cinéaste musicien, au sens où il a le sens de la musique, par exemple, je sais pas, prenons Paul Thomas Anderson pour un des réalisateurs qui est présent dans ce livre, enfin on pourrait aussi dire Bertrand Blier par exemple, très différent, sont quand même des gens qui ont un vrai lien à la musique, qui ont une vraie affinité avec la musique et qui se servent de la musique comme des éléments de mise en scène, ce qui est quand même assez différent, voilà, de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire d'une musique de film, bon, qui a été faite par un très bon musicien, mais enfin dont le réalisateur au fond ne s'est pas vraiment emparé, n'a pas fait grand chose, alors que là on est face à des gens qui ont une vraie démarche artistique et de mise en scène liée à la musique. C'est pour ça que j'ai distingué un certain nombre de cinéastes, bon, dont certains sont très connus. Enfin, il y a Coppola par exemple. Bon, il y aura certainement dans le deuxième volume David Lynch. Bon, Godard et d'autres, des cinéastes qui ont vraiment marqué dans la manière aussi dont ils utilisent la musique, parce que la musique c'est aussi un élément, voilà, qu'on peut malaxer, qu'on peut couper, qu'on peut utiliser de façon très variée. Et il y a des cinéastes qui parviennent beaucoup mieux que d'autres.
Mmh. Il y a Almodovar évidemment, Robert Altman, Woody Allen, hein, dont on connaît l'amour de la musique étant lui-même musicien. La place donc des réalisateurs, évidemment j'ai dit qu'il n'y avait pas un souci d'exhaustivité, mais le lecteur ne pourra pas s'empêcher évidemment de dire « Ah là il manque un tel, là il manque un tel, donc je ne vais pas jouer à ce jeu-là ». Je vais juste citer un réalisateur qui est absent, mais j'imagine qu'il sera très vite rattrapé avec l'entrée Michel Legrand, c'est Jacques Demy.
Oui, c'est ça. Alors, il a fallu arbitrer entre parfois entre réalisateur et compositeur. compositeurs, parce qu'est-ce qu'on choisit plutôt. J'aurais pu, par exemple, dans le cas d'Almodovar, j'aurais pu choisir plutôt de faire une entrée sur Alberto Iglesias, qui du coup n'en aura pas, alors que Alberto Iglesias n'a pas travaillé que pour Almodovar, même si c'est son cinéaste de prédilection. Mais en même temps, Almodovar, c'était pas que Alberto Iglesias, c'était aussi tout un tas de chansons latines, de musique préexistantes qui font partie de son univers. Donc il m'a semblé plus pertinent de faire Almodovar que de faire Iglesias. Bon, dans le cas de Demi, oui, ça se discutait évidemment, mais l'œuvre de Legrand est tellement énorme que j'étais un peu partagé dans l'idée de faire vraiment un focus spécifique sur Demi, ce qui aurait été un peu redondant potentiellement. Après, je m'en sors parfois aussi avec des choix de films. Par exemple, là, ça n'a rien à voir, mais c'est dans un tout autre sujet. J'ai pas inscrit les Beatles, qui aurait pu l'être, mais je referai. Il y aura un petit article sur Get Back, le documentaire de Peter Jackson, dans le prochain volume. Donc voilà, c'est un mélange. Dans certains cas, on peut revenir deux fois sur le même sujet, mais il faut essayer de trouver un angle d'attaque différent. Bon, c'est pas toujours simple, mais parfois c'est très facile, parce que par exemple les Oscar Axe, un exemple qui me vient à l'esprit, ça s'imposait relativement. Il n'y a pas du tout de compositeur de prédilection, il n'a même pas utilisé des compositeurs dans tous ses films, mais il a un rapport fort à la musique. Donc là, on voit bien qu'il y a un univers qui s'impose, qui est celui de les Oscar Axe et pas celui d'un compositeur. Mais dans d'autres cas, c'est un petit peu plus compliqué.
Alors, vous aviez déjà écrit 3 monographies sur des cinéastes, David Lynch, Wong Kar-wai et John Cassavetes, qui figurent dans cet ouvrage. John Cassavetes, évidemment, dont on connaît l'amour de la musique et du jazz. C'est intéressant dans votre ouvrage aussi, c'est qu'en plus de l'aspect littéraire, le plaisir subjectif de se confronter à votre opinion, il y a des anecdotes, des coulisses de travail. Notamment, j'ai appris que John Cassavetes avait pensé à Miles Davis avant de travailler avec Charles Mingus.
Oui, c'est vrai.
Ça, ce sont des souvenirs personnels, où vous avez fait aussi un travail de relire des interviews
Dans certains cas, oui, j'ai surtout réécouté beaucoup de musique, parfois revu des films, dans la mesure du temps que je pouvais avoir. Oui, j'ai aussi plongé dans certaines documentations. Parfois, il y a des choses qui me sont restées en mémoire, tout simplement. Mais c'est vrai que, bon, Cat Cassavetes, en effet, j'avais travaillé dessus, donc. Et à l'époque, il y avait déjà quand même un chapitre quasiment autour de la musique et du son, donc je me suis un peu servi, là, je dois dire, de ce que j'avais fait en le réadaptant. Mais dans le cas, par exemple, de William Friedkin, qui est le dernier article du Jusqu'à Nouvel Ordre, donc en tout cas de ce premier volume, je me suis servi d'un entretien que j'avais fait avec lui pour la radio il y a quelques années, où il expliquait, enfin où je l'avais interviewé sur différents films importants pour lui et d'un point de vue musical, en particulier French Connection ou Sorcerer, le Convoi de la Peur par exemple. Il expliquait très bien quel avait été le processus, pourquoi il avait choisi un tel, comment il avait fait pour se servir de la musique. Donc j'ai eu envie plutôt là dans ce cas de Friedkin, plutôt que de m'épancher entre guillemets sur mes préférences, j'ai plutôt eu envie de donner à voir, à lire le processus au fond qui est à l'œuvre dans le cinéma de Friedkin. Donc c'est varié aussi selon les cinéastes d'une certaine manière.
Et pour revenir à John Cassavetes, écoutons Shadows, musique donc de Charles Mingus, une musique, comme vous l'écrivez, qui relève de l'improvisation, et vous qualifiez Charles Mingus de vrai rebelle. Thank you. Autopsie d'un meurtre à l'instant, musique de Duke Ellington, qui figure donc dans le livre de Thierry Jousse, avec cette musique de Duke Ellington. Alors c'est intéressant aussi dans votre livre, parce que on sent aussi que c'est un livre de programmateur, quoi. C'est-à-dire que plutôt que de mettre en focus, en valeur, le titre d'ouverture célèbre de Autopsie d'un meurtre, eh bien vous défrichez comme ça des petites faces B, comme on disait du temps du vinyle, avec ce titre Sunswept Sunday, que vous qualifiez de sublime miniature aux accents de berceuse éternelle.
Oui, alors c'est intéressant le cas de Autopsie d'un meurtre, parce qu'il s'agit d'un film dont la BO est très célèbre. Là, en l'occurrence, c'est dans un article sur Duke Ellington, dans le dictionnaire. Donc c'est une musique dont la BO est mythique, pour en particulier pour les amateurs de jazz, mais pas seulement. Le film est aussi un chef-d'œuvre. Mais dans le film lui-même, au fond, Preminger, qui est pourtant un cinéaste très musical, ne l'a pas utilisé de manière tellement... il n'a pas forcé beaucoup sur la musique, si je puis dire. Parfois, on peut reprocher à des cinéastes d'y aller trop fort, mais lui, je dirais que je trouve qu'il a été un peu en retrait. Et encore une fois, c'est un des cinéastes qui a vraiment eu un goût pour la musique, pas seulement d'ailleurs la musique de film, hein, mais parce qu'il a fait aussi une adaptation de Carmen Jones, Porgy and Bess. Bon, bref, donc là, c'est un cas particulier, puisque la musique de ce film est devenue aussi un album à part entière, un peu comme pour Ascenseur pour l'échafaud, dans le cas de Miles Davis, qui a aussi droit à une entrée dans le dictionnaire. C'est devenu des albums mythiques, quoi. C'est-à-dire Ascenseur pour l'échafaud, évidemment, mais aussi Autopsie d'un meurtre, qui donc s'appelle Anatomy of a Murder, c'est le titre original. Et là, j'ai un petit peu oscillé entre les deux. C'est-à-dire que, en effet, les deux objets étant à limite à égalité, c'est-à-dire le film et l'album, on navigue un peu entre les deux. Et je crois que l'album a pris le pas sur... J'adore le film, hein, vraiment, mais j'adore moins le film pour des raisons musicales que pour des raisons de dramaturgie, de mise en scène, de jeu d'acteur. Et en même temps, j'adore la musique elle-même. Donc là, il y a une petite disjonction intéressante, ce qui fait qu'en effet, je suis allé plutôt vers des musiques qui me paraissaient moins connues et qui, moi, me transportent totalement. Donc oui, c'est un cas particulier, mais au fond, il n'y a que des cas particuliers, finalement, dans l'histoire de la musique au cinéma.
Et cette dissociation musique-image-contexte est intéressante. Ce tropisme de jazz, hein, parce que très présent dans le livre, alors vous citiez Miles Davis, il y a aussi Chet Baker, ce tropisme de jazz, des films de jazz qui vous ont donné l'amour du jazz, ou c'est plutôt le jazz qui vous avait fait aimer quelques films de jazz?
Moi, je dirais les deux. Oui. C'est-à-dire, ça dépend des moments. À l'origine, c'est sans doute plutôt des films qui m'ont fait aimer le jazz, hein, comme Ascenseur pour l'échafaud, qui est une sorte de musique, enfin, un bien commun, ou À bout de souffle, hein, par exemple, aussi, donc musique de Martial Solal. C'est une période aussi où le jazz a joué un rôle dans le cinéma, fin 50, début 60, notamment dans le cinéma français, mais pas seulement, bon, qui est très, très importante. Je pense que ça a été les deux. C'est-à-dire que le cinéma m'a amené au jazz, et ensuite le jazz m'a ramené aussi au cinéma. Donc il se trouve que j'avais fait relativement récemment une série sur le site Blow Up, pour lequel je travaille régulièrement, donc à produire des montages donc autour de la musique au cinéma, là aussi qui peuvent être sous l'angle d'un réalisateur, d'un compositeur. Bon, mais on avait conçu après une discussion avec Luc Lagier, qui en est le rédacteur en chef, il m'avait suggéré, tiens, tu pourrais faire une série sur les jazzmen au cinéma, et effectivement, ça m'a passionné, parce que j'ai découvert des choses, hein. On connaît jamais tout. J'ai découvert des B.O. d'Ellington que je connaissais pas. J'ai découvert des choses que Chet Baker a pu... Enfin, bon, voilà. On découvre toujours des choses, parce que dans les carrières de ces gens, il y a des choses un peu obscures qui, tout d'un coup, et qui n'ont pas forcément toujours fait non plus l'objet d'albums, d'ailleurs. Hein. Donc, oui, ça explique sans doute que, d'ailleurs, le jazz soit assez présent. C'est un amour ancien, de toute façon, le jazz pour moi. Mais c'est un peu les deux. C'est vrai que dans le cas de Chet Baker, il faut bien avouer que là, ça a été plutôt l'écoute des BO dans lequel il est soliste qui a été importante. Mais enfin, le film de Bruce Weber, Let's Get Lost, le documentaire autour de Chet Baker, a joué un rôle aussi. Donc c'est un peu les deux à la fois, quoi.
Et d'avoir cet amour du jazz et du cinéma, finalement, l'histoire du cinéma vous a un peu donné raison, puisque finalement, il n'y a pas d'autre style qui a ce point une histoire du cinéma.
C'est vrai, même si aujourd'hui le jazz n'est pas ultra dominant dans le cinéma, il faut bien le reconnaître, hein, c'est une musique qui a malgré tout eu son heure de gloire, comme je le disais, hein, il y a un âge d'or qui est vraiment autour des années 50-60. Ce qui est intéressant avec le jazz, c'est que c'est une musique qui a pas mal évolué, puisqu'elle a été aussi L'élément d'une mutation dans la musique de film symphonique, puisque peu à peu il y a eu une sorte de jazz symphonique qui s'est imposé dans les années 50. Bon, et puis il y a eu ensuite vraiment les vrais jazzmen entre guillemets qui se sont emparés du cinéma parce que le jazz était aussi un peu à la mode. Puis ensuite on a eu les compositeurs comme Lalo Schifrin ou Quincy Jones qui venaient du jazz, qui étaient imprégnés par le jazz et qui réacclimataient le jazz, ou le grand hein, d'ailleurs, qui ont réacclimaté le jazz dans la musique de film et qui ont aussi fait changer la musique de film. Donc le jazz a joué un rôle quand même vraiment important cette période, et puis depuis, bah, périodiquement, ça revient, il y a quand même des gens. Mais le jazz a peut-être mauvaise presse aujourd'hui, parce que dans le contexte de ce qui est devenu la musique de film, le jazz, c'est peut-être une musique trop marquée, quoi, d'une certaine manière, et qui surtout a tendance, pour les producteurs, à donner l'image d'un truc qui renvoie au passé, quoi. Mais il y a malgré tout des réalisateurs qui continuent à l'utiliser. Bon, le cas de Woody Allen, c'est vraiment à part, parce que lui, effectivement, il a puisé dans... En plus, lui, c'est pas n'importe quel jazz, c'est quand même beaucoup le jazz des années 30-40, on va dire, le jazz de... Bon, on retrouve justement Ellington ou Armstrong, mais d'autres. Donc le jazz est devenu... Mais lui, il en a fait une sorte de décor personnel qu'il peut appliquer à différentes situations, différents contextes. Et c'est très particulier. Mais c'est la liberté aussi de Woody Allen qui lui a permis d'avoir, au fond, de choisir ce qu'il avait envie de choisir, quoi.
Alors, je l'ai dit, à égalité, réalisateurs et compositeurs ont les mêmes nombres d'entrées, mais il y a 4 films qui ont leur entrée en tant que film. Il y a donc l'affaire Thomas Crown qui ouvre le dictionnaire, il y a Diamant sur canapé, Bullitt et Casanova. Aussi peu d'entrées pour des films, on se demande du coup le choix a dû être vraiment motivé pour avoir ces 4-là.
Il y en aura d'autres hein, dans les prochains volumes. Bah, c'est quand même, enfin, je pense pour les amateurs de musique de film, des films marquants, hein, pour des BO marquantes, des pour moi parmi les chefs-d'œuvre de la BO. Enfin, et c'est des BO aussi qui peuvent s'écouter en tant que tel, parce que ça aussi c'est aussi une question quand on est amateur de musique de film, c'est-à-dire est-ce qu'on peut écouter la musique en dehors du film ou pas, ou est-ce que la musique doit s'écouter avec le film. Bon, les deux on pourrait dire, mais ça dépend des cas de figure, et là on est dans le cas de figure d'ailleurs où c'est les deux, c'est-à-dire que Bullitt c'est une BO marquante avec le film, mais c'est aussi un album marquant sans les images, c'est-à-dire que l'affaire Thomas Crown c'est la même chose, Casanova aussi, c'est-à-dire ce sont des musiques, évidemment sur canapé pareil, donc ce sont des musiques d'abord que j'aime énormément, qui ça d'ailleurs toutes issues de la même période, hein. J'ai un peu aussi une espèce de tropisme pour les années 70 que je considère quand même un peu comme la période d'âge d'or de la musique de film, bon, ça peut toujours se discuter, mais bon, quand même c'est une période extrêmement riche dans la musique et dans le cinéma d'ailleurs de façon générale, et sont des BO qui existent en soi, mais qui existe aussi très fortement dans les films parce que Jewison, Fellini, Black Edwards ou Peter Yates ont réussi à en faire, à s'en servir de manière vraiment flamboyante dans certains cas. Enfin, ce sont des musiques qui jouent un rôle décisif dans la manière dont on appréhende ces films. Et ce sont des BO que j'aime voilà, particulièrement. Donc, il y aura quelques films comme ça qui ponctueront les autres volumes, mais ce sera effectivement des choix très drastiques, on pourrait dire.
C'est ça qui est intéressant dans votre livre, finalement, c'est ce choix, c'est ce tri, c'est cette radicalité presque parfois, et du coup on se confronte à elle. Vous invitez d'ailleurs le lecteur en préambule de votre ouvrage à vous rencontrer ensuite pour débattre, voilà, virtuellement ou physiquement. Et donc d'ailleurs physiquement il y a les occasions hein, puisque vous programmez des séances au Nouvel Odéon.
Exact, depuis hier d'ailleurs, ça a commencé hier un nouveau ciné-club au Nouvel Odéon, mais je serai aussi à la librairie et magasin de DVD Potemkin, le rue Beaurepaire dans le 11e, le 14 à 18h30 pour une rencontre donc avec le public, enfin je ne sais pas exactement qui sera là, donc ça sera aussi effectivement l'occasion éventuellement de confronter, oui, parce que inévitablement c'est pour ça que j'ai bien insisté sur le côté subjectif, parce que je vois qu'il y a des gens qui voient le mot dictionnaire tout de suite, ils disent oulala ça va être exhaustif, il y a une sorte de critère de scientificité presque dans le mot dictionnaire qui n'est évidemment pas ce que j'ai voulu mettre en avant, donc le enchanté vient contredire ou en tout cas vient enrichir le mot dictionnaire, et les absents bah oui, vont forcément être aussi marquants d'une certaine manière que les présents. J'annonce tout de suite qu'il n'y aura pas d'entrée Hans Zimmer, probablement dans la lettre Z, j'ai pas encore défini de rédiger loin de là, mais enfin il n'est pas certain qu'il y ait j'aurais pu faire une entrée d'Hans Zimmer parce que c'est un compositeur intéressant en soi, enfin son impact dans le monde du cinéma est considérable, donc en termes historiques il est très important, mais en termes de goût personnel, par exemple, moi je suis pas très attiré par les musiques de Hans Zimmer, donc je doute qu'il y ait une entrée en Zimmer. En revanche, j'ai voulu, il y en aura d'autres ultérieurement, j'ai voulu par exemple qu'il y ait un compositeur anglais pas très connu qui s'appelle John Dankworth, aussi il vient du jazz, qui a travaillé avec Joseph Losey, enfin dans, pas mal dans le cinéma anglais des années 60, parce que ça m'a semblé être un type dont on parlait très peu en France et qui méritait qu'on... Voilà, donc il y a aussi la volonté dans certains cas, il y aura aussi la volonté dans certains cas de réhabiliter, de remettre en lumière des gens qui n'ont pas forcément la notoriété qu'ils devraient avoir, en tout cas en France.
Tout à fait. Pour revenir aux films qui ont leurs entrées, c'est intéressant parce que j'ai choisi de diffuser un extrait de Casanova que vous qualifiez comme le sommet de leur collaboration et qui est finalement leur collaboration la moins jazzistique.
Oui, c'est une collaboration atypique parce que la musique de Rota, effectivement, elle est marquée par le jazz, mais pas seulement, par la musique de cirque, on le sait, par Kurt Weill, par j'en sais rien. Enfin bon, il y a un univers très reconnaissable et très que les gens connaissent bien en général de Nino Rota. Et là, il y a effectivement un moment particulier dans leur travail qui est assez tardif, puisque Nino Rota disparaît, je crois, 2 ans après, qui va dans une autre direction que ce qu'on connaissait. Et Fellini lui-même, d'ailleurs, se confronte à quelque chose d'un peu nouveau. Donc, on a le sentiment que les deux hommes sont face à un nouveau défi et que ça a produit vraiment quelque chose. Je suis pas sûr que ce soit, c'est pas mon film du tout Fellini préféré par ailleurs, et il y a d'autres BO évidemment de Rota que j'aime beaucoup, comme Juillet des Esprits, Roma ou évidemment 8,5 et La Dolce Vita, mais c'est vrai que ce climat étrange, un peu abstrait, qui a réussi à créer, un peu oriental même par moment, qui a réussi à créer Rota pour ce film, c'est vraiment d'une singularité telle que, et c'est très très marquant quoi.
Et vous le qualifiez donc un véritable film pour les oreilles dans votre dictionnaire, Thierry Jousse, Casanova, musique de Nino Rota.
It's been so long.
Vous avez reconnu évidemment David Bowie avec ce titre Putting Out Fire, extrait de la Féline de Paul Schrader sur une musique de Giorgio Moroder. Alors vous parlez d'une rythmique intense, Thierry Jousse, dans votre ouvrage. La voix du chanteur qui s'élève à la conclusion du film avait provoqué chez moi un émoi érotico-lyrique que je ne saurais oublier. Voilà, ce type de formule très délectable à lire dans cet ouvrage. Alors c'est une musique qui a été faite pour le film, évidemment, cette chanson. Mais dans l'ouvrage, il y a de part et d'autre des musiques originales, mais aussi des musiques préexistantes qui, à vos yeux, ont tout autant un intérêt.
Oui, bah dans le cas de Bowie, je pense là spontanément, j'ai pas tout en tête parce que j'ai pas relu le, mais enfin j'ai pas, je pense à la chanson Modern Love dans Mauvais Sang de Carax, qui est par exemple un usage bien connu et très marquant. Donc oui, ça serait dommage de ne pas en faire profiter les lecteurs qui doivent s'en souvenir pour une bonne partie d'entre eux d'ailleurs. Et oui, ça, la musique préexistante, c'est un domaine en soi parce que il y a des personnalités qui l'ont utilisé de façon extrêmement habile et personnel, bon, ils sont pas forcément dans le volume parce que c'est, en termes d'alphabétique, ça tombe pas comme ça, mais enfin, je pense à Wong Kar-wai. Bon, Tarantino, sur lequel je suis très partagé, donc je suis pas encore s'il y aura une entrée Tarantino ou pas, mais musicalement, ça pourrait valoir le coup puisque c'est quand même un peu, moi, ce que je préfère au fond chez Tarantino, c'est ses BO. Donc, il y a des cinéastes, bon, Kubrick et d'autres, qui effectivement ont marqué les esprits par l'usage de morceaux préexistants, mais le problème après, c'est que la question de la musique préexistante, elle est devenue tellement vaste et large et un peu commercial, il faut bien le dire, parce qu'il y a aussi beaucoup de morceaux préexistants dans les films qui tiennent lieu de soit de choix liés au fait que c'est des tubes et que donc ça va faire partie, ça va un peu faire comment dire, ça va donner un relief supplémentaire au film, surtout d'un point de vue commercial, et ou alors c'est des BO qui connotent l'époque, quoi. C'est souvent ça, quand un film se passe dans les années 70, on a droit à des musiques de l'époque, mais alors même dans ce cas-là, il y a des cinéastes qui arrivent à en faire quelque chose de plus personnel, par exemple Paul Thomas Anderson dans le dernier film, dans Licorice Pizza, qui n'a pratiquement pas de musique originale, hormis un tout petit morceau à la fin de Johnny Greenwood. La BO n'est pas simplement un décor, on sent un choix très personnel, on sent quelque chose de plus habité dans le choix. Les morceaux ne sont pas les morceaux lambda, il y a un morceau très connu, qui est justement d'ailleurs de Bowie, que je n'ai pas cité, mais qui je crois est Life on Mars, il me semble. Bon, ce sont aussi des morceaux liés à l'année dans laquelle se passe l'action, mais c'est quand même autre chose, voilà, qu'un décor. Donc c'est très varié là aussi selon les cas de figure, mais ça m'a semblé quand même intéressant et utile et important d'en parler, parce que d'ailleurs j'insiste quand même sur aussi le dictionnaire enchanté de la musique au cinéma et pas de la musique de film. Je tiens à cette distinction parce que quand on dit musique de film, effectivement on parle des partitions originales, on parle de BO, bon voilà, et c'est évidemment un domaine extrêmement large, vaste et important, mais la musique au cinéma, c'est pas seulement les BO, c'est aussi voilà des chansons, des musiques préexistantes, enfin des manières d'aborder le cinéma plus musical, et je voulais aussi que ça figure dans l'ouvrage. Quoi.
Musique au cinéma plutôt que musique de film, tout à fait. Et parmi les musiques préexistantes, alors il y a souvent des musiques préexistantes qui sont des musiques de film, et finalement, en amoureux de musique de film, il y a une connivence qui se crée quand on a une musique de film qu'on aime, qui se retrouve dans un film. Vous le dites dans votre ouvrage que dans Nocturama de Bonello, ça vous a fait aimer le film d'avoir Amicalement Vôtre de John Barry.
Ah bah, j'adore vraiment, j'adore cette BO, enfin ce thème de Amicalement Vôtre, donc que en tout cas pour une génération qui est la mienne et peut-être celle d'après, qui a été très importante, puisqu'on voyait ce générique de la série avec ces deux personnages qui sont dont on évoque la biographie en parallèle, Roger Moore et Tony Curtis, enfin Brett Sinclair et Danny Wilde, et la musique de John Barry qui est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. Enfin pour moi c'est un morceau assez incroyable, et en effet quand je l'ai entendu dans Nocturama, qui est un film sur lequel qui me mettait mal à l'aise, enfin, et c'est un drôle d'objet, Nocturama, qui est passé un peu, d'ailleurs, qui a pas eu la chance qu'il aurait dû avoir, puisqu'il est tombé dans la période de post-attentat de 2015, et même si le type d'attentat dont il est question dans le film n'a rien à voir avec des attentats islamistes, malgré tout, ça a joué en défaveur du film. Et c'est vrai que ça m'a tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé comme un déclic quand j'ai réécouté cette musique. J'ai trouvé l'idée aussi extrêmement et audacieuse et originale d'utiliser ce morceau à un moment comme une espèce de chorégraphie de mort, alors que c'est pas tellement ce qui avait été, c'est pas du tout l'esprit dans lequel le morceau a été composé. Donc c'est aussi cette façon de délocaliser, on pourrait dire, un thème pour le mettre ailleurs. Ça donne aussi parfois des choses très surprenantes et qui nous vous font redécouvrir aussi le morceau d'ailleurs.
Alors, les grands compositeurs incontournables du cinéma ont évidemment leur entrée, de A à F. Il y a Antoine Duhamel, Georges Delerue, Éric Demarsan, Claude Bolling, John Barry, Bruno Coulet, Alexandre Desplat, évidemment, et Vladimir Kosma. Vladimir Kosma, vous croisez comme ça les compositeurs avec un aspect autobiographique personnel et en faisant preuve, même, c'est ce qui est aussi plaisant à la lecture, d'un certain sens de l'humour et même de l'autodérision. Vous dites par exemple que le thème du Grand Blond avec une chaussure noire ne m'a jamais quitté, n'a jamais quitté ma mémoire, pourtant très encombrée. Depuis cette époque déjà lointaine, ce thème est toujours là, tapis quelque part dans un coin de ma tête, prêt à ressurgir à la moindre alerte. Voilà, il y a le sens de vouloir écrire, de faire de la littérature, on y revient, autour de ces figures finalement qui sont devenues presque des statues. C'est-à-dire qu'il y a donc il y a un côté un peu iconoclaste finalement à repeindre une statue.
Oui, iconoclaste, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une volonté de se l'approprier un peu personnellement. Alors, ça peut peut-être déplaire à certains lecteurs qui attendraient peut-être justement un côté plus objectif, entre guillemets, de ce qu'est justement l'objet dictionnaire. Mais c'est-à-dire que, par exemple, un compositeur comme Vladimir Kosma, que par ailleurs je connais un peu et que j'ai rencontré, mais j'ai pas tellement tenu compte de mes rencontres avec lui, c'est plutôt là un compositeur que tout le monde s'est un peu approprié. C'est-à-dire que tout le monde connaît les musiques de Vladimir Kosma, je crois. Là, c'est transgénérationnel. Je me souviens avoir parlé de ça une fois avec Céline Sciamma, qui a priori paraît très très éloignée de Vladimir Kosma, et pourtant elle m'avait dit qu'elle avait été marquée par les musiques de Vladimir Kosma. Enfin, c'est pour elle, la musique de film, c'était d'abord Vladimir Kosma avant tout. Donc c'est assez marrant, vous voyez, Kosma Sciamma, a priori on est quand même aux antipodes. Bon, et pourtant, donc c'est bien la preuve que c'est un compositeur qui a marqué plusieurs générations, et donc finalement moi je m'inscris comme un amateur parmi d'autres de ces musiques. Alors je connais peut-être un peu mieux que la moyenne, évidemment, parce que c'est un peu plus mon domaine, mais je voulais avoir cette position d'amateur, de spectateur, d'auditeur, c'est-à-dire essayer de transcrire à travers sa propre expérience aussi ce que pourrait être l'expérience de plein d'autres gens qui peut croiser. Donc, alors c'est marrant parce que sur le Grand Blond avec une chaussure noire, je l'ai revu il y a pas tellement longtemps avec mes enfants qui eux l'avaient pas vu et qui ont aimé, et qui ont aimé beaucoup les musiques de Vladimir Kosma. Je suis frappé, cette génération-là, par exemple, moi j'ai des enfants qui ont 13, 18 ans aujourd'hui, bon, ils sont, Kosma, c'est le premier compositeur qu'ils ont identifié, parce que de Funès, parce que tel et tel film, bon, Pierre Richard, en effet, et tout ça, ça fait que c'est un patrimoine commun, encore une fois, mais qu'on peut s'approprier, sans que ce soit péjoratif, subjectivement, et c'est ce que j'ai voulu faire. Et dans le cas de Kosma, en plus, j'ai essayé de mettre en valeur des BO qui étaient effectivement un peu moins connu, que je pars des choses les plus connues que chacun connaît, mais pour aller vers d'autres types de musique de film qu'il a pu faire, qui sont un peu moins célèbres et qui me paraissent tout aussi importantes. Mais là, c'est aussi une œuvre assez large, assez vaste, dans laquelle il faut faire un peu son choix et son marché. Quoi.
Et d'ailleurs, ce que vous avez dit me fait penser qu'à une des qualités aussi de l'ouvrage, c'est une certaine humilité, puisqu'évidemment, en tant que journaliste, on rencontre beaucoup de compositeurs, et ça, vous n'en faites pas cas, vous ne dites pas « Ah, lui, je l'ai rencontré, par exemple. » Voilà, il n'y a pas d'aspect pédant que vous pourriez, d'ailleurs, avec des anecdotes de rencontres. Non, non, vous restez, comme vous le dites, à la place de l'amoureux de la musique de film.
Oui, alors, il y aura peut-être des petites anecdotes parfois qui arriveront, je sais pas encore, je me souviens plus, parce que j'ai déjà écrit un certain nombre de textes des prochains volumes, mais bon. Oui, parce que c'est un peu anecdotique souvent, sauf si ça a trait vraiment c'est-à-dire que si ça a trait vraiment à des choses essentielles ou à des choses importantes pour les musiques ou pour les films, oui. Mais sinon, si c'est juste pour dire je connais Vladimir Kosma, en effet, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Oui, j'avais fait une série d'entretiens. J'ai fait une série d'entretiens sur France Musique avec Vladimir Kosma il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ou 4 ans, qui m'ont servi, en revanche, pour écrire certains aspects de ce texte, notamment sur des aspects un peu biographiques, des débuts de Kosma, l'arrivée en France. Bon, j'ai pas tout détaillé, j'aurais pu parler de sa période roumaine quand il était élève au conservatoire à Bucarest. Bon, c'est vite anecdotique, et puis il y a aussi un certain nombre de compositeurs que j'ai jamais rencontrés, comme Georges Delerue, qui est mort trop tôt pour que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Donc bon, voilà, j'ai un peu égalisé, mais rien n'est interdit. Encore une fois, il y aura peut-être des anecdotes qui surgiront dans les prochains volumes.
Et mettons à l'honneur maintenant musicalement Bruno Coulet, avec 8 films avec Benoît Jacquot, une collaboration que vous mettez en avant, avec notamment 3 chœurs de Benoît Jacquot, musique donc de Bruno Coulet. Et là, vous reliez vraiment la musique à l'image. Vous dites autant de variations sur la lumière, reliant le visible et l'invisible, avec un sens des climats et du mystère que beaucoup pourraient lui envier. 3 chœurs.
avec. Et mort la nuit avec les condamnés, les abandonnés. Elle ira dans l'enfer avec les morts damnés. Quand la paille en enfer s'envolera légère, ton corps s'envolera pour que le feu l'embrase. Alors comment sera?
Vous avez sûrement reconnu la voix de Christophe pour le film de Bruno Dumont, Jeanne. Une bande-son, comme vous l'écrivez Thierry Joux dans votre ouvrage, qui élève le film à un niveau métaphysique qui n'atteindrait pas forcément sans elle. Donc là, il y a parfois dans l'amour de la musique de film de la transcendance.
Oui, bah là, le sujet s'y prête en l'occurrence, puisqu'il s'agit de Jeanne d'Arc. Mais c'est marrant parce que j'entretiens un rapport très ambigu, ambivalent avec les films de Bruno Dumont, ce qui n'est pas vraiment mon cinéaste de prédilection. Mais parfois, là, c'est par des éclairs, et notamment, ça s'est vraiment passé comme ça sur Jeanne. J'ai été gagné par le film, par la dimension musicale et par la présence de Christophe aussi physique dans le film, qui a une très belle scène à un moment donné où il dévoile son visage, il est en moine, bon, et il se met à chanter. C'est une scène de grâce totale. Donc, ça m'a fait aimer un film que sans la musique de Christophe, j'aurais sans doute regardé avec beaucoup plus de distance. C'est l'avantage pour moi, encore une fois, de la musique de film. Et ça arrive parfois dans le film, dans l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a souvent, pas souvent, mais de temps en temps, des contradictions, en effet, entre des musiques qu'on peut aimer, des cinéastes qu'on aime moins, mais qui tout d'un coup gagnent des points, entre guillemets, parce qu'il y a tel et tel, on en avait déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure sur Bonello, mais ça vaut pour d'autres films. Donc il y a des contradictions, je trouve, intéressantes dans la manière dont la musique nourrit le cinéma, quoi.
Et donc, on a cité tout à l'heure des noms de compositeurs incontournables de la musique de film. Avec Christophe, nous sommes plutôt du domaine de compositeurs issus d'albums, de la scène. Et cet ouvrage inclut donc des Brian Eno, des Bob Dylan, des Burt Bacharach, des Air, c'est-à-dire des compositeurs vraiment issus de la scène. Et Danny Elfman, d'ailleurs, en fait partie, ayant commencé dans la scène. Donc là, il y a aussi quelque chose comme ça. Ça reflète, cet ouvrage, la variété des profils et aussi des compositeurs rares. Vous l'avez dit. Donc il y a un aspect prescripteur dans cet ouvrage, avec notamment John Denkworth et puis également Roy Budd, qui est très sous-estimé dans l'histoire de la musique de film. John Denkworth, il est connu pour Joseph Losey, notamment The Servant, et Roy Budd est connu notamment Get Carter, que vous citez, mais plusieurs films de Mike Hodges.
Oui, c'est important pour moi aussi de pas de réhabiliter, parce que ce sont des gens qui ont connu, des amateurs, ceux qui s'intéressent de près à la musique de film connaissent forcément ces compositeurs, mais c'est important de les mettre en évidence dans un ouvrage comme ça, qui s'adresse pas uniquement aux amateurs hardcore, si je puis dire, de musique de film. Donc il y en aura d'autres dans les prochains. Je pense à un compositeur par exemple polonais qui s'appelle Andrzej Korzynski, qui a travaillé pas mal avec Wajda. Bon, tout ça c'est des choses qui sont un peu oubliées aujourd'hui, et au fil de mes pérégrinations liées notamment à la radio et aussi à la discothèque Radio France, où il y a quand même beaucoup de choses, j'ai pu découvrir parfois des compositeurs que je connaissais pas ou que j'avais entendu plutôt qu'entrevu dans des films, sans savoir trop de quoi il s'agissait. Et tout d'un coup, on découvre qu'il y a des compositeurs méconnus, mésestimés. Et il y en aura. Et on pourrait presque faire un ouvrage entier autour des compositeurs méconnus.
Et compositeurs méconnus, c'est l'occasion aujourd'hui d'écouter la musique donc de John Denkworth pour The Servant.
Now while I love you. Now while I love you alone, now while I love you, can't love without you, must love without you alone. Leave it alone, it's all gone. Leave it alone, it's all stay to see me turn from your arms. Leave it alone, it's all gone. Give me my death, close my mouth. Give me my breath, close my mouth. How can I bear the ghost of you here? Can't love without you, must love without you.
Voilà pour les compositeurs méconnus de l'ouvrage Dictionnaire enchanté de la musique au cinéma par Thierry Jousse. On avait entendu la chanson All Gone signée John Denkwartz avec la voix de Cleo Lane. Et puis à l'instant, la musique de Roy Budd pour Get Carter, compositeur culte, vous dites, Roy Budd. Très peu connu du grand public. Et puis c'est intéressant parce que vous dites que dans La Loi du Milieu, il y a très peu de musique dans le film, mais la musique marque. Donc il y a aussi cela en fait. Le plus important n'est pas la quantité de musique dans un film, peu importe sa quantité, c'est sa pertinence finalement.
Oui, puis c'était l'époque où on composait des thèmes, ce qui est un peu moins vrai aujourd'hui, c'est-à-dire des thèmes accrocheurs que les gens retenaient, quoi. Donc c'est tout à fait le cas pour Get Carter. Il se trouve que c'est une musique qui a été utilisée ensuite pour des génériques d'émissions de télé, par exemple. Donc aussi c'est une musique qui a eu qui a une deuxième vie en quelque sorte. Mais oui, la quantité n'est pas Lalo Schifrin l'avait très bien dit à propos de Bullitt justement. Donc la quantité n'est pas la panacée universelle de la musique, à part si on veut toucher beaucoup de droits d'auteur en tant que compositeur. Mais les grands compositeurs ont souvent l'intelligence de dire aux réalisateurs qu'à dans certains cas, il faut pas de musique. Et ça, je trouve que c'est la preuve qu'un compositeur a compris de quoi il s'agissait dans les rapports entre musique et image, parce que mettre beaucoup de musique n'a pas forcément de sens dans tous les films, quoi.
L'émission arrive bientôt à son terme. Quelques autres choses qui m'ont un peu marqué dans l'ouvrage à juste mentionner. Parfois, il y a une contradiction entre le critique de cinéma et le mélomane. Mauvais film, mais moment musical délicieux. Ça peut arriver. Vous parlez d'ailleurs d'un paradoxe musicalo-cinématographique, parfois, par moment. Il y a aussi un certain fétichisme, c'est-à-dire l'idée, vous mentionnez, de revoir en boucle des moments d'un film sans se soucier du reste du film. Donc, juste pour les moments musicaux, et vous le dites notamment pour Brigitte Bardot avec des moments chantés de l'actrice. Ça me permet d'ailleurs de mentionner qu'il y a aussi des acteurs-actrices dans l'ouvrage, Fred Astaire, Brigitte Bardot ou encore Julie Andrews. La comédie musicale est aussi donc un sujet dans l'ouvrage, notamment Annette qui figure dans l'entrée Léos Carax. Vous dites aussi d'ailleurs, pour revenir à John Cassavetes, qu'il avait eu des projets de comédie musicale avortés. Voilà plein de choses, un ouvrage riche. On va terminer avec l'actualité puisque vous dites l'âge d'or 50-60, mais il y a des coups de cœur récents, en témoigne le Jeanne de Bruno Dumont, mais aussi on va terminer avec Bertrand Burgala qui figure en bonne place dans l'ouvrage à la lettre B, avec notamment Nos apparences, et je partage cet avis, une partition de la maturité, vous dites, et c'est vrai que c'est une partition qui vraiment, Bertrand Burgala, je peux dire, s'est surpassé puisqu'il est sorti vraiment de son sillon, on va dire.
Je suis absolument d'accord, j'ai eu envie, oui, non, mais je suis pas que passéiste, effectivement, il y a des choses, j'aime aussi des choses dans la période contemporaine, et Burgala en fait partie, et notamment cette BO-là.
Et bien voilà, merci Thierry Jousse d'être passé.
Merci Benoît Basirico.
Et puis donc on va se quitter avec cette musique de Bertrand Burgala, Nos apparences. Au revoir.